que 10 x 10, c'est autre chose que 100. Si vous êtes capable de répondre à cette question, vous êtes capable de juger de l'intérêt du prélèvement de l'impôt à la source. Voici donc la nouvelle recette proposée par le Parti Socialiste, non pas une solution fiscale, mais une solution à l'absence de solution fiscale. Car fondamentalement, le prélèvement de l'impôt à la source ne changera rien. Il n'empêchera en rien la fraude fiscale, puisqu'il faudra toujours se fier aux déclarations d'impôt des non-salariés. Pour les salariés, le prélèvement à la source est une conséquence logique de la feuille d'impôt pré-emplie qui est leur lot aujourd'hui. En somme, cette réforme, si elle a lieu, ne réformera pas grand-chose, mais elle va occuper les esprits pendant quelques jours où l'on tentera d'oublier que la grande réforme fiscale prévue par la gauche n'a pas vu le jour, la grande réforme qui aurait pu modifier la progressivité de l'impôt, sa contribution à la justice sociale. Et dans quelques mois, lorsque viendra le bilan du quinquennat de François Hollande, on se rendra compte que la gauche s'est privée d'un instrument évident de justice sociale, la réforme de l'impôt, avec une série de vrais faux débats pour faire oublier cette absence de réforme, depuis la taxe à 75% sur les très hauts revenus jusqu'au prélèvement à la source. En somme, une série d'écrans de fumée destinés à masquer la grande immobilité de notre paysage fiscal. Et même si un jour le prélèvement à la source était adopté, malgré la source, il n'y aurait aucun risque de débordement.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Comment le marketing nous manipule-t-il ? Pour en parler, je suis en compagnie de Sybille Vincendon. Bonjour.
Bonjour.
Sybille Vincendon, vous êtes rédactrice en chef adjointe de Libération et vous publiez le deuxième à 1 euro, comment le marketing nous manipule. À côté de vous se trouve Catherine Hortebis. Bonjour, vous êtes journaliste spécialiste du marketing et vous publiez les petites bêtises du marketing aux éditions François Bourin. Et puis enfin, Michel Montrousset, vous êtes un professionnel du marketing. Vous publiez Marketype, les archétypes de Jung au service des marques. C'est coécrit avec Thibaut Ferrali aux éditions François Bourin. Et puis vous êtes planeur stratégique. Qu'est-ce qu'un planeur stratégique, Michel Montrousset?
Déjà bonjour. Alors un planeur stratégique, c'est quelqu'un qui a des grands bras, des grandes ailes, qui n'a pas de moteur.
Vous volez alors ?
Je vole, oui. En fait, c'est juste fait pour bien capter les courants ascendants le plus souvent. Plus sérieusement, c'est notre métier de planeur stratégique consiste à comprendre la façon dont les gens se comportent, comprendre les besoins des consommateurs, comprendre les liens qu'il y a entre ces fameux consommateurs et ces fameuses marques, et d'essayer de créer des liens, on va dire, harmonieux. Pas forcément manipulateur.
Comprendre les besoins des consommateurs, ou alors peut-être en créer des besoins un peu artificiels.
Oui, alors ça, je pense qu'on va en parler durant cette heure. La genèse du marketing, c'est plutôt pas de créer des besoins, mais plutôt d'essayer de comprendre ce que les consommateurs ont dans la tête, de façon très concrète, mais aussi de façon très un peu moins concrète. Je vois que je...
Sybille Vincendon rigole.
C'est-à-dire qu'entendre dire que ce n'est pas de créer des besoins, je veux bien être très bienveillante, mais enfin quand même, ça consiste quand même à créer des besoins, parce que si vous considérez de quoi nous avons réellement besoin pour vivre, le parc d'achat est assez limité quand même. Donc il a bien fallu à un moment donné créer des besoins, c'est-à-dire...
Besoin d'amour et d'eau fraîche, l'eau fraîche ça se markete aujourd'hui, l'amour pas encore, ça va venir.
Si
l'amour. Ça se markete, l'amour.
Le vrai amour, Sybille.
Et Mythique, qu'est-ce qu'ils vous vendent?
Il
me semble.
C'est du vrai marketing,
pas du tout romantique.
Là. C'est du vrai marketing, ça.
Catherine Hortebis.
Mais en fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le marketing, il s'est quand même dévoyé. Parce que quand il est né, je parle de la France, là, parce que bien évidemment, il vient des États-Unis. Mais quand il est arrivé, c'était à la période des 30 Glorieuses. C'était vraiment, quand on pense à Moulinex, Libère la femme, il avait quand même un rôle intéressant dans la société de consommation. Et il a permis à des marques de s'implanter, mais en répondant vraiment à des besoins. Mais c'est vrai qu'on peut dire que maintenant, c'est évident que l'offre dépasse les besoins, quoi. On n'a plus besoin d'avoir... regardez, vous cherchez un Danone, par exemple, vous cherchez un yaourt nature dans un hypermarché. Eh bien, vous ne le trouvez pas, vous mettez 30 minutes pour le trouver. Donc, je vais vous dire ça, c'est une offre qui est beaucoup trop pléthorique. Mais je maintiens que le marketing, au départ, il avait vraiment une raison d'être qui était beaucoup plus éthique que maintenant.
Michel Montrosset, défendez votre profession.
Non, mais c'est vrai que le marketing, c'est sophistiqué. On est passé de je réponds à des besoins à j'essaie d'en créer parce qu'il faut que je développe aussi ma marque. Mais c'est vrai aussi que les consommateurs se sont développés en même temps. Vous disiez effectivement 30 glorieuses. On va dire que le marketing a une petite centaine d'années aujourd'hui, 75 ans. Ça fait trois générations. Donc ça fait trois générations de gens qui ont vécu du marketing, qui connaissent la communication. Et franchement, je pense que le rapport des gens aujourd'hui, notamment les cybergénérations et les digital natives aux marques, n'est pas du tout le rapport qu'avaient les gens, nos grands-parents.
Sybille ouais. Vincendon, si nous n'achetions pas les marketeurs, notamment Michel Montrosset serait obligé de changer de métier. Je ne dis pas qu'il serait au chômage, mais enfin, il devrait devenir prof, autre chose, quoi.
Oui, on sera bien triste à ce moment-là. Mais moi, ce que j'ai tenté d'expliquer dans ce livre, c'est le commerce, c'est l'acte économique le plus courant que vous rencontrez. C'est le premier que vous rencontrez, même quand vous êtes enfant. Et à partir de là, de raconter comment ça fonctionne, ce qu'il y a derrière, et aussi, justement, le côté un peu machine folle de l'affaire. Je m'explique. Quand vous faites du marketing pour des dentifrices, mettons, c'est un des exemples que j'ai pris, parce que ça me paraissait... Bon, vous pouvez un peu ce qu'on appelle segmenter, c'est-à-dire couper en tranches votre clientèle en vous disant que vous avez besoin d'avoir un dentifrice spécifique pour les enfants, un autre pour les gens qui ont mal aux gencives, etc. Mais enfin, c'est un exercice qui ne va pas très loin. Et moi, je suis partie dans ce livre des publicités de ce qu'on peut lire dans les magasins, dans les pubs, voire à la télé. Et quand j'ai vu qu'il y avait un dentifrice qui était exprès pour les hommes, alors là, je me suis demandé quelle était la spécificité de l'homme. Alors, la marque vous explique qu'en réalité, ils ont les dents plus tachées avec le café, le tabac, tout ça, et leurs mauvaises habitudes. Et ils font une pub assez drôle où le
ça, c'est
type
les hommes,
est...
hein.
Oui, c'est les hommes. Et la pub est assez drôle parce que le type rentre dans une boîte de nuit avec une dentition qui est quasiment fluorescente. Mais on se dit qu'il faut aller très très loin quand même pour arriver... Mais ça, à faire ce genre de choses.
Et effectivement, l'une des premières ressources du marketing aujourd'hui, l'une des sources de profit, c'est le marketing de genre. On va en parler tout de suite après Ifen, The Fear is Blue, un disque choisi par Thierry Dupin avec Olivier Bétard à la réalisation.
Service public, 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
The sky cries out.
Service public sur France Inter. Comment le marketing nous manipule-t-il? Nous sommes en compagnie de Sybille Vincendon, journaliste qui publie Le Deuxième à 1 euro. Comment le marketing nous manipule? Michel le montre, c'est Homme de marketing qui publie Marketype aux éditions François Bourin. Et enfin Catherine Hurtebise, qui elle aussi est une journaliste spécialiste du marketing, qui publie Les petites bêtises du marketing, notamment un stabilo pour les femmes. C'est une bonne idée ça, Catherine Hurtebise?
Alors en fait, moi ce que je trouve en effet dans la manipulation du marketing, c'est toutes ces diversifications dont, qui n'ont aucun intérêt en fait. Mais il faut savoir que...
Ah bah, un stabilo pour les femmes, oui, c'est un intérêt pour stabilo.
Pas vraiment, mais c'est un intérêt pour stabilo bien sûr, mais pour les consommateurs pas vraiment. Mais en fait, c'est tout part du fait que dans les linéaires, il faut avoir de plus en plus de place parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, de plus en plus de produits. Or, si par exemple Danone lance ce qu'il a fait en Bulgarie et qu'il va paraît-il faire en France, un yaourt pour homme qui est noir, à noir bien sûr, très chic. C'est pourquoi c'est pour
le packaging ou
le
à l'intérieur
est noir.
Le paquet,
non, je pense
pardon.
Pas, je l'ai pas goûté, mais je pense
le
pas
que le yaourt est noir.
Le packaging est noir, et ben c'est uniquement pour avoir plus de linéaires en magasin. Et le stabilo rose, quand c'est sorti, personne n'y a cru. Tout le monde s'est dit, mais pourquoi est-ce que ça fait des années qu'on sert de stabilo?
Ça a beaucoup fait ricaner.
Et... Est-ce qu'on a une façon de le tenir différemment et tout? Mais il y a eu d'autres cas. Hein. Il y a eu par exemple le Perrier Fluo qui était aussi pour les jeunes et plutôt qui a été un flop total. Alors moi, c'est ce qu'on appelle, nous, du LOL marketing, quoi. Ça fait rigoler, quoi. Personne n'y croit.
Sybille Vincendon, rigoler. Personne n'y croit?
Je ne sais pas si personne n'y croit, mais je me suis dit, moi, que en décryptant un peu ces cas de figure, le yaourt, ça a été un de mes grands exemples, effectivement, sur comment on peut arriver à segmenter la clientèle du yaourt, à n'en plus finir, tout en satisfaisant, en principe, des besoins très contradictoires.
Par exemple,
des besoins de santé, de diététique, d'allègement, et puis d'autres besoins du type les enfants. Il y a des yaourts avec des sortes de bonbecs au-dessus, donc on achète la paix sociale à table, c'est parfait, mais ça atteint un point qui finit par être grotesque. Et je pense que moi, j'ai essayé de raconter ça comme une histoire assez rigolote, et d'autant plus rigolote que comme les consommateurs sont de plus en plus avertis et que les réseaux sociaux, ça fonctionne, quand on met sur le marché un produit véritablement comme le stabilo pour femmes, par trop caricatural, il n'est pas dit qu'on arrive à ses fins. Et ça, je trouve ça assez moral.
Michel Montrosset, lorsque vous travaillez avec des marques, est-ce que vous avez souvent affaire à des demandes qui sont des demandes un peu ridicules et qui aboutissent à ce stabilo pour femmes qui a plus fait rigoler, à mon avis, qui n'a déclenché de vente, un yaourt noir pour homme, un dentifrice pour homme, puisqu'on en parlait tout à l'heure?
J'ai hâte de goûter le yaourt pour homme, noir d'ailleurs.
Il faut aller dans les pays de l'Est.
Ouais. Mais il se verra dans le linéaire en tout cas.
Non, ça prouve que, puisqu'on parle de manipulation, ça prouve bien que les hommes de marketing sont pas des méchants hydrocéphales qui travaillent dans des laboratoires un peu comme des méchants de James Bond. C'est des gens comme vous et moi, humains, qui travaillent. Voilà. Oui, il y a des demandes, mais la demande n'a pas été de lancer un yaourt noir ou voilà. La demande a sûrement été de savoir, comme le dit Catherine, occuper un linéaire, décliner les choses. Ce qu'on décrit là, c'est du mauvais marketing, tout simplement. Un stabilo pour femmes, c'est du mauvais marketing. Un exemple de bon marketing, on le citait pendant la pause, c'est ce fameux déodorant spécifique pour hommes qui s'épile les aisselles. Ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'épilent sous les aisselles, le fameux courant métrosexuel, et pour autant ils sont pas prêts, puisque ce sont des vrais mecs, en tout cas c'est comme ça qu'ils se perçoivent, à acheter un déodorant pour femmes qui serait dans l'innocuité. Donc lancer un déodorant spécifique
pour hommes...
Mais c'est
un peu ça le problème, puisque donc en fait c'est elliptique votre propos. S'il y a un déodorant spécifique pour hommes s'épilant les aisselles, c'est parce qu'il s'agit d'un déodorant sans aluminium. Peut-être que le mieux, ce serait de supprimer l'aluminium de tous les déodorants.
Non, c'est pas ça le sujet. C'est que les principaux déodorants qui sont dans l'innocuité sont des déodorants pour femmes et les hommes ne sont pas prêts. Certaines cibles d'hommes ne sont pas prêts à
mais
ça.
Sur cette Sybille histoire Vincendon. Sur cette histoire de déodorant, je trouve que c'est un très très bon exemple. On est sur des marchés de masse qui sont sursaturés. Et le problème qu'ont ces marques sur l'hygiène beauté, la cosmétique, mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines qui sont des domaines de produits de supermarché, quoi, pour dire les choses simplement, c'est qu'ils n'arrivent plus véritablement à faire croître leur part de marché. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Leur réponse est une réponse un peu désespérée, qui est la réponse de la gratuité. Alors ça, j'ai été absolument sidérée de découvrir ça au cours de cette enquête, c'est que la gratuité des produits, alors en tant que journaliste, moi je pensais que ça n'avait atteint que les productions du type presse, cinéma, musique, et qui étaient vraiment très confrontées à la gratuité du téléchargement, et, etc. Et pas du tout. Sur les vrais objets en dur, dans ces domaines comme le déo, eh bien, on a 3,7 milliards de produits gratuits chaque année.
Donc, on voit que ce sont des marchés énormes avec des tentatives, évidemment, à chaque fois plus malignes ou qui se croient plus malignes de capter les consommateurs, avec aussi de nombreux dérapages. Par exemple, les Trois Suisses ont fait un beau dérapage en début d'année, Catherine Hurtebiz.
Ah oui, en fait, c'était moi j'étais en train d'écrire donc ce petit livre et puis je vois sortir cette pub pour les Trois Suisses. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Et bien évidemment, tout de suite sur la toile, il y a eu des Alors le pire dans ce cas, enfin c'est pas toujours le cas, hein, parce que moi je donne des exemples aussi de bad buzz qui sont vraiment, qui ont été vraiment faits exprès.
Mais là, lesquels, par exemple?
Les bad buzz faits exprès, l'ONU de la Redoute, on en reparlera tout à l'heure si vous voulez, c'était pas exprès au départ, simplement après ils l'ont utilisé pour essayer...
Un homme nu
dans le catalogue de la Redoute,
avec
des enfants sur la plage, et au lieu de... Ils l'ont retiré, bien sûr, mais la Redoute s'est dit, bon, finalement, c'est une bonne idée, on va mettre partout des images fausses comme ça, et on va demander aux internautes de les trouver, ils vont gagner des vêtements. Et là, on se dit, mais ils nous prennent vraiment pour des cons.
Michel Montrosset, est-ce qu'ils nous prennent pour des gens, comme le dit Catherine Montrosset?
Catherine le dit juste. Catherine Montrosset, c'est Hurtebiz. Elle a raison, puisque justement, c'est encore la preuve que c'est du mauvais marketing et que les gens n'ont plus le même rapport aux marques. Il y a aujourd'hui, sur les 66 millions de Français, il y a 30 millions de Français qui ont des comptes actifs sur les réseaux sociaux. C'est pas rien, 30 millions de Français. Donc ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui savent se parler entre eux. On parle même de Nouvelle République des consommateurs. Voilà. Donc c'est des gens qui sont éduqués aux marques et à la communication et au marketing, plus ou moins. C'est des gens qui échangent plein d'informations sur les réseaux sociaux. Et s'ils font avoir une fois ou deux fois, ils en parlent à leur communauté. Et très très vite, la réputation de la marque est en danger. Et justement, ce que vous dites sur les Trois Suisses, c'est vrai. Un bad buzz ou une erreur marketing, c'est pas bon pour la réputation de la marque.
Oui, mais l'erreur marketing était costaud. Hein, quand même.
Alors, le déodorant et tous les produits de beauté sont évidemment d'énormes marchés avec de fortes dépenses marketing. Le cosmétique est bien souvent le domaine qui rime avec marketing, mais il existe une société biphase créée par deux Français à Barcelone il y a 15 ans, dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Biphase ne fait quasiment aucune publicité tout en se positionnant sur des produits très abordables. Notre reporter Thomas Chauvineau est allé à la rencontre du fondateur Didier Petitot et de la responsable de la com, Olivia Goldman.
Alors, on prend un produit. Alors, je vais commencer par un grand classique, c'est une crème de jour, hein, hydratante pour le visage. Je vais vous montrer, donc un petit packaging très mignon, simple. Alors, la différence, c'est effectivement un carton beaucoup plus fin que pour certaines grandes marques. Et vous voyez, par exemple, ce pot est à 3,99€ chez Biphase, alors que pour une très grande marque, l'équivalence va être à 30, 40 ou 50 euros.
Comment vous expliquez un tel écart?
Parce que déjà, nous, on n'a pas d'égérie. On n'est pas annonceur. Des jurys, par exemple, la majeure partie des grandes marques vont faire appel à des personnalités du show business. On n'a pas forcément non plus les moyens de se payer une star à 1 million d'euros, à 2 millions d'euros. C'est des sommes colossales. Quand vous voyez des très belles femmes comme Charlize Theron, Eva Longoria, vous voyez Monica Bellucci, vous imaginez bien que toutes ces femmes coûtent très cher. Enfin, elles ont un prix si on veut exploiter leur image. Et c'est malheureusement ce prix que la consommatrice paye. Il y a la mise en place dans les magasins, il y a les PLV, l'affiche PLV, c'est tout ce que vous retrouvez dans les magasins. Par exemple, si vous êtes dans un Sephora, Marionneau, etc., vous avez tout un linéaire organisé pour mettre en avant les produits. Tout ça, c'est un coût énorme parce que vous imaginez, il y a combien de Sephora, combien de Marionneau en France? Il faut démultiplier à chaque fois pour chaque espace, pour chaque boutique. Donc tout ça, c'est un coût colossal. L'affichage, les campagnes d'affichage, on voit toutes ces superbes stars en photo sur des 4x3, sur les routes, sur les périphes. C'est pareil, c'est un coût. C'est énorme. Et on n'a pas des emplacements non plus stratégiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas être avenue des Champs-Élysées, avenue Montaigne. On ne va pas avoir des emplacements extraordinaires. On est juste distribué chez les discounters. On est les spécialistes de la lingette. Elles sont là. Elles sont magnifiques, ces lingettes. Vous voyez, vous les ouvrez. Là, vous avez un petit opercule, pareil, qui permet de protéger la lingette, pour éviter que la lingette se déshydrate. Vous voyez, hop. Si vous voulez, on peut appeler nos clients. Là, ils sont à Barcelone.
L'histoire, c'est une vraie histoire de marge. Parce qu'il faut savoir quand même que même les grandes marques, le coût de fabrication, il est à peu près équivalent au nôtre au départ.
Et donc, ça veut dire que quand on achète chez vos concurrents, d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est des vrais concurrents, du coup, puisque vous ne jouez pas dans la même cour, on paye uniquement le marketing en plus. Vous dites les prix sont à peu près les mêmes quand ça sort du laboratoire.
On ne paye pas que... J'aime pas trop dénigrer ni trucs. C'est un autre travail. Vous avez des grands groupes qui font des grosses recherches, qui ont tout un staff, beaucoup de marketing. Moi, j'ai décidé plutôt d'investir sur le consommateur qui va de bouche à oreille parler de nous. On n'est pas connu d'une certaine population, mais on est connu d'une autre population. Une population qui est souvent dans l'ombre, qui vit dans les banlieues, qui vit dans les zones rurales, qui vit dans toutes ces zones-là, et qui n'ont pas les moyens de s'offrir les grandes marques qu'on connaît tous. Voilà.
Mais ça veut dire aussi que, vous en êtes la preuve vivante, il n'y a pas besoin de tout ce marketing pour vendre de la crème ou du shampoing.
Non. Non, absolument pas. On a une chose qui se passe en ce moment qui est extraordinaire pour nous, c'est que les Chinois, la Chine, vient nous acheter à nous. Les Chinois qui ont l'habitude d'être la référence des prix les moins chers et tout, ils viennent d'acheter du biface parce que c'est pas cher, mais parce que c'est européen. Fabuleux.
Le reportage de Thomas Chauvineau. Votre réaction à ce reportage, Sybille Vincendon?
Il y a une chose qui m'intrigue, c'est que cette personne dit dans les classes populaires, dans les banlieues, les gens achètent nos produits, ils n'ont pas besoin de tout ce marketing et de toutes ces dépenses autour des égéries, des célébrités. Moi, ce que je constate, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que, en fait, ce que vendent les égéries, c'est-à-dire si vous avez, Charlize Theron qui vend je ne sais quel parfum, vous faites rêver précisément dans les couches populaires. Et c'est peut-être là que c'est le plus problématique, parce qu'en réalité, vous allez vendre véritablement, là, pour le coup, un rêve. Il y a une fausse promesse là-dedans.
J'ai l'impression que le luxe, qui est quand même en grande partie un mensonge et une utilisation éhontée du marketing, se porte très bien sur le segment des classes supérieures.
Sur les classes supérieures, certainement. Mais je trouve que sur l'égérie, l'histoire la plus intéressante, c'est celle de luxe, les savons. Ils ont commencé un peu avant la Seconde Guerre, entre les deux guerres, à utiliser... mais ils ont utilisé, je crois, 2000 stars.
Le savon des stars.
Le savon des stars. Et Marlène Dietrich, tout le monde y est passé. Marilyn Monroe, les Françaises Bardot, Deneuve, etc. Et en réalité, ils ont véritablement, à cette époque-là, multiplié leurs ventes.
Michel Montrosset, le spécialiste du marketing, il en pense quoi?
Oui, c'est intéressant. En fait, au-delà des cibles, ce qui est intéressant, c'est ce que ces messieurs dames disent sur les dépenses marketing, sur les dépenses de distribution, etc. C'est vrai que si on coupe les dépenses marketing et si on coupe la distribution, on n'est pas à l'abri de couper 20 ou 30% des dépenses. Pareil sur la force de vente, voilà. Donc ça parle d'un système plus direct. Ça parle aussi par extension de nouvelles façons de consommer, hein, plus directement de producteurs à consommateurs. Ça me fait penser aux AMAP et à ce genre de nouvelles consommations.
Ça parle de low cost aussi, d'une certaine
façon.
De
low cost.
Comment le marketing peut-il continuer à nous manipuler? On en parle tout de suite après les Rolling Stones, She's a Rainbow.
Yeah. seen her dressed in blue. See the sky in front of you.
La longévité des Rolling Stones, est-ce du marketing? Le marketing nous manipule-t-il? Nous sommes en compagnie de Catherine Hurtubise qui publie Les petites bêtises du marketing, Sybille Vincent-Don qui publie Le deuxième à 1 euro, comment le marketing nous manipule, et Michel Montrosset qui est planeur stratégique et qui publie Marketype aux éditions François Bourin. Nous avons Valentin qui nous appelle du Vaucluse. Bonjour Valentin.
Allô, bonjour.
Nous vous écoutons, vous êtes en direct sur l'antenne de France Inter, Valentin.
Je suis avec le petit oreillette dans les vignes, vous m'entendez bien?
Moyennement, mais on va essayer, on va tendre l'oreille, Valentin.
Bon, merci de prendre mon appel, bonjour à tous, bonjour à l'équipe, bonjour aux auditeurs. J'ai d'abord créé une rediffusion, moi, et il y a eu le même genre de sujet il n'y a pas trop longtemps. Vous n'aviez pas pris mon appel, ce coup-ci vous le prenez, je vous remercie.
Bon, voilà. Alors moi, je ne vois pas de quelle émission vous parlez, mais en tout cas, voilà, on prend votre appel et on écoute votre question, Valentin.
Très bien. Eh bien, écoutez, moi, je voulais faire part de mon témoignage. Il me semble qu'il y a peut-être un petit, enfin, c'est mon avis, un petit amalgame entre publicité et marketing. À savoir, je suis donc vigneron. Moi, à mon échelle, je mets en place, pour moi, le marketing, c'est la mise en place d'une stratégie commerciale qui me donne les moyens d'avoir donc une stratégie cohérente au regard du produit proposé. La recherche du réseau de distribution qui soit approprié, etc., etc. Je ne mets pas en place de stratégie de communication ou de publicité qui soit débilisante ou quoi que ce soit. Pour moi, le marketing, voilà, c'est la recherche du bon client par le bon canal, au bon moment, le bon message. Voilà, c'est essayer de correspondre au public que l'on vise. Maintenant, donc voilà, premièrement, voilà, j'ai peur qu'il y ait une petite confusion dans l'esprit de pas mal de gens entre la publicité et le marketing, qui pour moi n'est qu'un outil commercial qui peut être utilisé à bon ou à mauvais escient.
Et donc, vous en défendez en quelque sorte l'utilité, Sybille Vincent-Don, votre réaction?
Mais ce monsieur est vigneron, c'est-à-dire qu'il est sur un produit qui n'est pas marketingé, si j'ose dire, comme l'est un produit de grande consommation. Le vin, ça parle tout seul, d'une certaine façon, il a de la chance parce que il y a l'histoire, il y a le terroir, il y a toute notre imaginaire français. Je rappelle que nous avons eu la protection de l'UNESCO pour le repas gastronomique des Français, c'est dire si dans les têtes, ça a quelque chose d'important, le vin.
Bon, enfin, le vin, c'est quand même très marketé, Michel Montrosset, ça n'est pas du tout un produit neutre, et par conséquent il y a beaucoup d'efforts de fait, même si ça ne se voit pas, et c'est peut-être justement parce que ça ne se voit pas qu'il y a beaucoup d'efforts de fait pour que tel ou tel vigneron, telle ou telle marque de vin, de champagne, se distingue d'une autre.
Oui, c'est vrai, Valentin, c'est comme Monsieur Jourdain, il fait du marketing et de la publicité peut-être sans le savoir. C'est vrai qu'il est sur un domaine qui auto-communique. Les grandes marques de champagne, de vin, notamment de champagne, font beaucoup de communication, pas forcément beaucoup de publicité au sens où on l'entend, au sens où on en fait sur la
télévision. Celle-ci est interdite depuis la loi E20.
Et d'ailleurs, elle est encadrée par la loi E20 comme pour les cigarettes. Malgré tout, certaines marques trouvent d'autres sources.
Non, mais quand on prend par exemple Absolute Vodka, c'est une marque qui a été intégralement marketée. Lorsqu'on prend la plupart des champagnes, eux aussi ont été intégralement marketé avec des marques qui ont été créées ex nihilo à partir de groupements de producteurs ou de choses plus ou moins transparentes, parce que le produit qu'on présente comme étant un produit authentique est bien souvent tout simplement une fabrication marketing, Michel Montrosset.
Mais le champagne est fabriqué comme ça depuis le 19e siècle. Donc, de toute façon, les gens de la Champagne ont été les premiers à avoir des méthodes extrêmement modernes de promotion de leur marque.
Tout à fait. Et ensuite, il y a des marques comme Absolut, à laquelle vous faites référence, qui sont des marques culturelles, qui ont été construites de toutes.
Qui vendent un univers, en fait.
Voilà. Et puis, il y a des marques comme sûrement celle de Valentin, qui a appelé, qui sont des marques du terroir artisanal, et qui n'ont pas besoin, en plus de ce qu'elles sont, de créer un storytelling ou un univers autour.
Puisqu'on parle de marques du terroir, il y a aussi beaucoup de gens qui tente d'utiliser cette vogue des produits authentiques, des produits vrais, du développement durable, de l'écologie, Sybille Vincendo. On appelle ça en français le greenwashing, le fait de récupérer donc cette tendance, et ça fonctionne plutôt gentiment.
C'est difficile à dire parce que, de fait, l'un des axes récents du marketing, c'est de jouer quand même sur les peurs, les angoisses, les inquiétudes. Et il faudrait être aveugle pour pas voir que les gens s'inquiètent sur l'environnement, s'inquiètent sur le climat et s'inquiètent surtout sur leur santé. Donc, plus le fait qu'il y a des réglementations, que ça devient plus difficile de produire certaines choses et qu'il faut les produire autrement. Donc, les marques se sont dit, faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Et utilisons ça comme un argument marketing. Alors, il y a certainement des producteurs qui font les choses correctement. Mais il y a aussi parfois la tentation de faire 10% d'une gamme hyper verte et puis de continuer à vendre 90% de choses qui ne sont pas exactement dans les clous.
Catherine Ortelis.
Oui, mais la période du greenwashing, on a cru en effet qu'elle était derrière nous et on se rend compte que pas du tout.
Non, pas du tout.
Moi, j'ai relevé là EDF, GDF qui fait, enfin, j'allais dire n'importe quoi et qui a été complètement blacklisté par un prix qui est génial. Si vous pouvez aller voir le prix Pinocchio, qui tous les ans décerne les mauvais élèves justement du greenwashing. Mais surtout, ce qui est fou, c'est que en fait, le greenwashing, il évolue. Alors maintenant, c'est du brand content washing.
Il va falloir que vous traduisiez brand content, le contenu de la marque.
On vous raconte par des infos que les produits, ils ont été faits comme ça, ils ont été bien, que les vaches, elles sont bien nourries. Et puis, il y a aussi, alors c'est un peu moins maintenant depuis que nous avons perdu un de nos fers de lance, mais ce que moi j'étais affolée depuis quelques années par le Made in France washing. Je veux vous dire, vous pouviez pas faire un pas dans un supermarché, sur tous les marchés de France, il y avait marqué produit fait en France et tout, et ça m'affole, ça.
Marie-Claire est au standard. Bonjour Marie-Claire.
Bonjour. Bonjour à tous.
Nous vous attendons, nous vous entendons, Marie-Claire, et vous nous appelez de la Drôme.
Eh oui, que vous connaissez bien, je crois.
Absolument.
ça vous prouve que je suis une fidèle auditrice.
Absolument.
Ce qui m'interpelle, c'est la vente par correspondance. Alors, bon, moi, je le dénonce, mais je suis la première à me faire avoir. Vous recevez les catalogues printemps-été et le gros catalogue après automne-hiver. Mais après, vous êtes bombardé de petits catalogues avec des nouveaux articles, des nouveaux vêtements qui ne sont pas dans le grand catalogue. Donc régulièrement, vous recevez toutes les trois semaines un nouveau catalogue et quand on est faible comme moi devant la mode, eh bien vous craquez.
C'est vous qui êtes fautive, Marie-Claire. Ça veut dire que vous recommandez. C'est pour ça que vous recevez des catalogues.
Je reçois les catalogues, bien sûr, mais ils savent bien qu'on va craquer. Ils savent bien, sinon ils ne le feraient pas. Donc voilà. Donc à chaque fois, eh bien, ils vous relancent avec des nouveaux articles jusqu'à chez vous. Mais ça, c'est parce que je le veux bien sûr. Et donc, je le dénonce. Mais parce que j'en suis victime, voilà.
Vous êtes une victime consentante de la mode, Marie-Claire. Merci pour votre intervention, Sybille Vincendon.
Ce que je trouve très intéressant dans cette intervention, c'est qu'elle met bien en avant le besoin qu'on les marque, de réactiver le désir en permanence. C'est-à-dire que cette dame a cru en toute bonne foi qu'une fois qu'elle avait reçu le gros catalogue, comme elle dit, ben c'est bon, quoi, elle n'a plus qu'à choisir là-dedans quand elle en a envie ou besoin. Mais pas du tout, parce que du côté de la marque et du côté du vendeur, en fait, elle n'est pas assez active comme consommatrice. Donc régulièrement, il faut aller lui faire une petite piqûre de rappel avec le petit catalogue de promo, le petit catalogue de ceci ou de cela. Et manifestement, elle est très consciente de ce système et elle n'arrive pas à s'en dégager.
Voilà, donc c'est moins grave, Marie-Claire, que vous ne le pensez.
Ce qu'on peut dire à Marie-Claire quand même, c'est quand elle reçoit quelque chose comme ça, quand c'est marqué gratuit, ce n'est pas gratuit.
Non.
Quand c'est marqué qu'elle a gagné 1 million d'euros, elle n'a pas gagné 1 million d'euros. Voilà.
Ce qu'on peut lui dire aussi, c'est qu'elle est la victime d'une stratégie de data mining avec aujourd'hui une capacité, je vais traduire, une capacité des entreprises comme La Redoute, comme les entreprises de vente par correspondance, qui gèrent un très grand nombre de fichiers de clients avec aujourd'hui l'utilisation des ordinateurs. On peut évidemment avoir une représentation très fine de ces clients et du coup leur faire des offres spécifiques. C'est ce qui est le plus impressionnant aujourd'hui, Michel Montrosset. On a la capacité quasiment de prédire ce que les gens veulent acheter.
Oui, c'est ce qu'on appelle le ou la big data. Effectivement, on sait à travers tous nos parcours et tout ce qu'on consomme et tous nos points de contact, le téléphone, les emails, etc., de plus en plus capter ce qu'on sait, ce qu'on aime, ce qu'on aimerait. Et voilà, de plus en plus de marques utilisent ces données pour essayer de vous vendre plus. Vous savez ce que disait un futurologue d'Intel, c'est que la data, c'est le nouveau pétrole, et que ceux qui dirigeront le monde sont ceux qui sauront raffiner ce pétrole.
Autrement dit, la data, les données, tout ce que l'on peut savoir sur les consommateurs et tout ce qui va permettre de mieux les manipuler. On continue à en parler tout de suite après Alain Souchon, Foule Sentimentale.
Un désir qui nous emballe
Service public sur France Inter. Comment le marketing nous manipule. Une émission préparée par Élodie Piel et Chantal Lemontagnier. Nous sommes en compagnie d'un spécialiste du marketing, Michel Montrosset, qui publie Marketype, de deux journalistes, Sybille Vincendon, qui publie le deuxième, un euro, comment le marketing nous manipule, et Catherine Heurtebise, qui elle s'est intéressée à tous les flops du marketing, ce qui prouve quand même que ces gens-là ne sont pas du tout infaillibles, Catherine Heurtebise.
Et heureusement, parce que sinon, on serait mal, comme on dit. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est pas uniquement les grandes marques de consommation qui se plantent, c'est aussi les services. Moi, j'ai essayé de donner des exemples aussi d'instances gouvernementales. J'ai parlé, par exemple, des jupettes de Juppé, du SMIC jeune de Balladur. J'ai parlé de sponsoring de Pierre Ier de Servier avec Françoise Artaud, avec Florence Artaud. Et surtout, et bien évidemment, de buzz. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec le buzz, avec les réseaux sociaux, il y a des manipulations qui deviennent énormes. Là, on a quand même eu, en 2015, début 2015, un faux produit qui a été lancé par Nana sur Internet.
Un faux produit dans le but
de faire du buzz,
connaître la marque. Stéphanie, justement, nous demande, Michel Montrosset, s'il y a une charte éthique dans le marketing par rapport à la qualité des produits. Est-ce que vous avez un code de déontologie? Ouais, ça vous fait rigoler.
La question. Alors, je ne sais pas.
Non, si vous ne savez pas, c'est qu'il n'y en a pas.
C'est qu'il n'y en a pas. Non, mais chaque marque et chaque entreprise, chaque corporation, oui, bien sûr, est soumise à des normes, la norme ISO, etc.
Non, mais là, c'était plus de l'éthique que de la loi ou de la norme.
Il y a l'art pour la publicité. Ouais. Non, mais il y a des choses. On peut pas communiquer en télévision comme on veut. Oui. Voilà. On peut pas communiquer. Il y a des choses sur les lois informatiques à liberté, sur les datas, etc.
Bon, enfin, si le marketing ne faisait plus de fausses promesses, il y aurait plus de marketing.
Non, il y aurait plus de commerce non plus. Et l'exemple type de ça, c'est Nutella qui vous vend du chocolat, des noisettes et du lait, alors que le Nutella, c'est genre 50% d'huile, effectivement, et 30% de sucre. Donc, c'est typiquement une promesse qui est sans aucune déontologie, dans un problème d'obésité infantile qui est montant, enfin, dans des vraies questions de société. Donc, de ce côté-là...
Des questions qui sont de plus en plus pointées par les consommateurs.
Qui viennent dans le débat de société.
Et alors, justement, dans l'affaire Nutella dont je parle dans mon bouquin, il y a un internaute qui a rajouté sur la moitié du pot, parce que s'il présentait, on pouvait personnaliser avec des phrases son pot de Nutella, il a rajouté Nut, 55% de sucre, 23% huile de palme, 14% de noisette, 6% de cacao. Avec le message, espérons que le bad buzz, dites-le avec Nutella, débouchera sur une recette éco-responsable. Là, on a tout dit.
Catherine a tué Nutella.
Nous avons une auditrice au standard, Anne-Marie, qui nous appelle de Villeneuve-les-Avignon. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Nous vous écoutons Anne-Marie, nous écoutons votre question, votre témoignage.
Oui, bon témoignage plutôt, pour montrer à quel point ça peut être contre-productif le marketing par mailing ou par internet. Bon, moi j'ai 68 ans, je reçois l'autre jour une publicité pour un petit siège électrique, vous savez, pour les gens qui peuvent pas se déplacer tout seuls, qui peuvent plus se déplacer tout seuls. Et moi il se trouve que, bon, je fais de la gym tous les jours, je monte à cheval, je marche, etc. Et ça m'a mise en rogne. Ça m'a mise en colère, je me suis dit, mais bon, et c'est allé directement à la poubelle, parce que quelque part, j'étais vexée. Donc, le ciblage du marketing, alors, c'est anecdotique, mais selon la personne sur qui ça tombe, ça peut être tout à fait contre-productif.
Sybille Vincendon va vous répondre, va réagir à votre marque, Anne-Marie.
Oui, moi je trouve, Anne-Marie, que vous devriez en rire, parce que c'est justement le côté gros sabot du marketing. Vous êtes née en telle année, alors forcément vous entrez dans une catégorie qui est concernée par le monte-étage automatique, alors même que vous n'êtes physiquement pas dans cette catégorie et probablement à peu près aucune personne de 68 ans. Donc, de toute façon, d'une certaine façon, il vaut mieux véritablement en rire.
Vous en pensez quoi, Anne-Marie ?
Oh, mais c'est ce que je fais. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire et c'est allé directement... à la corbeille. Donc bon, ça fait un petit bout de papier imprimé pour rien, quoi.
Merci Anne-Marie pour votre réaction. Des auditeurs ne sont pas contents parce qu'on emploie beaucoup de termes anglais, même si tous les termes anglais dans cette émission, comme dans toutes les autres, sont traduits. Néanmoins, cela signifie et cela montre, Michel Montrosset, qu'aujourd'hui, le marketing est une discipline principalement anglo-saxonne, qu'elle se fait à l'échelle mondiale, qu'elle est aujourd'hui enseignée dans la plupart des universités, les universités notamment de commerce où l'on parle anglais, d'où l'utilisation de ce drôle de sabir.
Oui, c'est vrai, c'est mondial, quoi. C'est un petit peu comme les marques mondiales, le marketing est mondial. Après, on peut parler de marketing. C'est un petit peu moins, ou de mercatique. C'est un petit peu moins sexy, je sais pas. Mais on peut utiliser le mot de mercatique. On peut utiliser le mot de publicité télévisuelle, de marketing direct. Alors,
il y a évidemment de nombreux mots français qui permettent de rendre compte, heureusement, des mots anglais. Mais à l'intérieur même du marketing, tout le jargon est bien souvent anglais. D'ailleurs, à ce propos, beaucoup d'auditeurs nous disent qu'ils aimeraient que vous leur définissiez la différence qui peut exister entre le marketing, la communication et la publicité. Michel Montrosset, est-ce que vous voulez tenter de faire une définition, par exemple, distinguer le marketing de la publicité?
Mais le marketing, c'est l'ensemble des choses qui sont faites pour comprendre le comportement des consommateurs et ensuite établir des stratégies, puis des tactiques, puis des plans de production et de mise en marché des produits pour que ces produits atteignent les consommateurs. La communication, c'est une des constituantes du marketing, et la publicité, c'est une des constituantes de la communication.
Sybille Vincendon, votre livre est un livre, le deuxième à 1 euro, est un livre finalement plutôt optimiste, puisque vous dites que le consommateur est de plus en plus aguerri vis-à-vis des pièges du marketing, ce qui veut dire aussi que les techniques doivent devenir de plus en plus sophistiquées.
Alors, il y a cette partie-là, ils sont effectivement de plus en plus aguerris au sens où ils sont informés, mais ils ont aussi des comportements qui sont déstabilisants pour les commerçants. La vente en ligne est un exemple très bon. La vente en ligne, ça a l'air extrêmement simple, mais en réalité, derrière, il y a un problème majeur, c'est que c'est très très cher en logistique. Quand on vous dit que vous serez livré le lendemain, votre commande, il faut qu'elle soit traitée dans un entrepôt en 2 heures. Donc vous imaginez un peu ce que ça peut coûter. Or, les consommateurs ont accepté d'être convaincus de l'intérêt d'acheter en ligne, mais ils aimeraient mieux que ce soit livré gratuitement. Donc les marques se disent « Allez, de temps en temps, ou bien toujours, j'offre la livraison gratuite. » Alors déjà, ça veut dire que ça va leur coûter de l'argent. Et pire encore, ils demandent après, les consommateurs, « Ah bah oui, la livraison gratuite, c'est bien, mais enfin, le retour gratuit, ça serait mieux quand même. » Alors du coup, vous avez dans le textile plein de marques qui font du retour gratuit. Ça implique des sommes phénoménales, parce que le comportement en particulier des femmes, ce que je trouve assez comique, c'est de commander 30 trucs et d'en renvoyer 28. Donc, en
les
gestion...
Les hommes aussi peuvent faire ça.
Je pense que les hommes peuvent faire ça. Et en gestion
en noir,
pour ces marques, c'est extrêmement compliqué à gérer. Et je trouve que finalement, il y a une morale de l'histoire.
Catherine Hurtebise, un mot de conclusion. Vous avez fait une liste de flops du marketing. Est-ce que vous pensez que ces flops vont décourager les professionnels du marketing?
Bah écoutez, malheureusement, je pense pas, parce que de toute façon, on voit qu'il y en a de plus en plus. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que ces flops, en fait, c'est avec le buzz, il y en a qu'on connaît, comme les Trois Suisses, l'homme nu de la Redoute et tout ça. Mais il faut quand même savoir qu'il y a la moitié des produits de grande conso qui passent pas les 2 ans. Donc les flops, on les connaît pas. Et nous, journalistes, on sait que dès qu'on demande des infos sur un échec, et ben à ce moment-là, il n'y a plus personne. Hein.
Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de vos ouvrages respectifs. Michel Montrosset, Marketype, les archétypes de Jung au service des marques avec Thibaut Ferrali. Sybille Vincendon, le deuxième à 1 euro, comment le marketing nous manipule aux éditions Fayard. Et Catherine Hurtebise, les petites bêtises du marketing aux éditions François Bourin.